Comme vous vous en êtes rendu compte si vous avez considéré les petits schémas de résumé que j'ai confectionnés, cette première soirée est une soirée introductive. L'introduction appartient au traitement du sujet, ce n'est pas un préalable qui puisse s'en détacher, mais malgré tout, on ne traite pas de la question de la même façon qu'ensuite. Nous allons traiter ce soir de la bonne manière d'aborder le sujet de l'ensemble de notre session. Et pour introduire cette introduction, je voudrais que nous lisions ensemble un passage de l'Écriture. Selon l'habitude que j'ai en milieu scolaire, je ne le fais pas toujours, mais je le fais assez souvent, j'annonce une traduction qui me donne la possibilité de faire quelques commentaires en suivant le fil du texte. C'est dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, que je voudrais lire les versets 6 à 16. Vous vous rappelez ce qui précède ? L'apôtre a souligné que c'est par la prédication de la croix que Dieu a choisi de sauver ceux qu'il veut sauver, prédication de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent, scandale pour les juifs, folie pour les grecs. Il s'est concentré sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et il n'a pas recouru à ce qu'il appelle la sagesse du langage. Mais au verset 6 du chapitre 2, il continue. Mais sagesse, nous parlons parmi les adultes, les hommes mûrs. Je cite les mots dans l'ordre où ils interviennent dans l'original, car je crois que l'apôtre donne le plan de ce qui suit. Comme parfois dans la technique de la prédication, il y a annonce du cheminement que le prédicateur va suivre. L'apôtre Paul annonce par ces trois termes clés, sagesse, parler, ce verbe parler courant, pour dire communiquer en traduction plus idiomatique, et parmi les hommes faits, les adultes, ceux qui sont assez mûrs pour recevoir l'enseignement. Il est d'abord question du caractère de sagesse du contenu de l'enseignement, c'est ce qu'on trouve dans les versets qui suivent immédiatement, puis de sa communication, comment ce message est-il communiqué, et finalement, il est question des personnes qui peuvent le recevoir, et comment. C'est en gros le plan du reste du chapitre à partir du verset 6. Il me semble intéressant de voir la technique de l'apôtre dans sa manière même d'énoncer son sujet. Donc, sagesse, le mot est emphatique ici, il est mis en vedette. Ce n'est pas selon la sagesse humaine, la sagesse des dialecticiens de ce siècle, de cet âge, ce n'est pas la sagesse du langage que prisaient ces grecs beaux parleurs. Mais c'est une sagesse. Mais c'est sagesse que nous communiquons parmi ceux qui sont capables de recevoir. Et vous savez qu'au chapitre 3, que nous ne lirons pas, l'apôtre est obligé de dire « Mais vous vous êtes montré tellement infantile dans vos réactions que je n'ai pas pu vous fournir cette nourriture substantielle. » Sagesse qui n'est pas de cet âge ou de ce siècle, comme vous voulez, ni des dirigeants, leaders de ce siècle, qui sont en déclin, qui sont en cours de démonétisation. Le verbe en lui-même, qui est assez fréquent dans le Nouveau Testament, veut dire privé d'efficacité, être rendu impuissant. Assez souvent, Je pense que le verbe démonétiser en français peut assez bien correspondre. Et quand ce qui est parfait adviendra, dit le 13e chapitre, ce qui est partiel est démonétisé. Ça existe encore, mais ça perd sa valeur, sa force. Alors, c'est des dirigeants de ce siècle que l'apôtre dit qu'ils sont en cours, c'est un présent de durée, ils sont en cours de perdre leur efficacité. Dans cet âge, le coup décisif contre leur crédit, contre leur influence a été porté, mais il en reste encore quelque chose, ils sont en cours de démonétisation, si l'on veut. Quels sont les dirigeants de ce siècle? Certains ont imaginé qu'il s'agissait de puissances spirituelles, mais le terme n'est jamais employé au pluriel pour les puissances spirituelles ailleurs. Et je crois qu'il n'y a aucune raison de ne pas donner au mot le sens le plus courant de dirigeants. D'hommes qui sont aux commandes de la vie politique sans doute, mais principalement culturelle, religieuse. Donc la sagesse que communique l'enseignement apostolique, ce n'est pas la sagesse de ces gens-là, qui sont en train de perdre en fait l'emprise qu'ils ont sur les choses. Mais nous parlons, communiquons, la sagesse de Dieu en mystère. Le mot mystère, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, n'a pas tout à fait le même sens dans le Nouveau Testament, dans le langage biblique, que dans le langage de l'Église par la suite, même s'il y a une certaine continuité entre ces usages. C'est d'abord un secret du plan de Dieu, selon qu'il a conçu l'histoire et son dessein, et qu'il révèle quand il le veut. Nous parlons de sagesse de Dieu en mystère, celle qui est cachée, là cachée, littéralement, que Dieu a prédestinée, si le verbe prédestiné n'a pas pour objet les personnes, mais la sagesse. La sagesse a été destinée d'avance, que Dieu a prédestinée avant les âges pour notre gloire. Que nul des dirigeants de cet âge, ce siècle, n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est à mon avis un argument très fort contre l'idée qu'il s'agirait de puissances spirituelles. Les puissances spirituelles ont agi, mais ce ne sont pas les puissances spirituelles qui ont crucifié le Seigneur. Ce n'est dit nulle part. Ce sont les hommes, ce sont les dirigeants qui effectivement ont crucifié le Seigneur de gloire. Mais selon qu'il est écrit, alors il est écrit, vous le savez, c'est une formule qui évoque en général l'inscription dans l'Écriture sainte. Et dans le Nouveau Testament, c'est généralement une référence à l'Ancien Testament. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et n'est pas monté au cœur de l'homme. Le cœur, c'est dans le cadre de la pensée, hein, d'abord. Donc il s'agit des pensées que l'homme aurait été capable de former. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Il semble qu'il s'agisse là d'un conglomérat d'éléments pris dans divers passages de l'Ancien Testament. Ce n'est pas une citation qu'on peut donner, pour laquelle on peut donner une référence précise, unique, mais Paul a fait en quelque sorte un amalgame d'éléments qui se trouvent dans plusieurs passages de l'Ancien Testament. En effet, à nous, Dieu l'a révélé, ce n'est pas monté au cœur de l'homme, mais Dieu l'a révélé. Vous voyez le contraste. Mais à nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit. En effet, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Là, il y a une insistance sur la pleine capacité de l'Esprit à faire cette révélation des choses les plus intimes de Dieu. Et il continue d'ailleurs, développant avec une très grande audace, selon une analogie, cette pensée que l'Esprit de Dieu est capable, et lui seul capable, de communiquer. Cette chose mystérieuse que même les les leaders culturels sont incapables de découvrir. Qui en effet des hommes connaît les choses d'un homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? Chacun a ses secrets, chacun sait ce qui se passe au fond de lui, et il est seul à le savoir. C'est son esprit qui le connaît. De même, nul ne connaît les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Ce qui est très audacieux, c'est, vous le voyez ici, là, le parallélisme. Ce que l'esprit d'un homme est à cet homme, l'esprit de Dieu est à Dieu. Avec, donc, cette exclusivité de la connaissance intime. Alors, on peut donner un petit détail qui concerne l'original. C'est une remarque qui a été faite déjà par un très grand exégète, Lightfoot, au XIXe siècle. Paul dit, qui parmi les hommes sait, littéralement, c'est un verbe qui suggère la possession d'un savoir, mais pour les choses de Dieu, il dit, nul ne connaît, ce qui implique davantage le processus de la recherche. Donc, nul ne sait les choses d'un homme, sinon l'esprit de cet homme qui est en lui, et nul ne peut même s'engager dans le processus de la recherche. Et il progressait quelque peu, lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. C'est encore plus fort que s'il avait répété simplement le même verbe savoir dans ce passage. Donc, la communication de la sagesse de Dieu par l'esprit, après le caractère mystérieux de cette sagesse. Nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'esprit qui provient de Dieu, qui est d'origine de Dieu. Afin que nous sachions les choses accordées par grâce de Dieu, et que Dieu nous accorde par grâce. Choses que nous communiquons, parlons, toujours le même verbe, non dans les mots, les paroles, ça pourrait même se paraphraser argument, hein, c'est un mot qui a des sens assez divers, c'est le mot logos simplement. Non dans les mots, les paroles, enseignés par la sagesse humaine, mais enseignés par l'esprit, combinant spirituel et spirituel. Alors là, cette dernière clause, en trois mots simplement dans l'original, a été interprétée de façon diverse. Certains ont cru que cela voulait dire appliquant les choses spirituelles ou les enseignants aux hommes spirituels, aux hommes et femmes, aux personnes spirituelles. Mais j'ai été convaincu par un argument que ce ne peut pas être le sens ici, car il y aurait normalement un article alors qui se trouverait devant le premier mot, les personnes spirituelles seraient indiquées par un article. Donc il s'agit plus probablement, combinant réalité spirituelle à réalité spirituelle, combinant une forme, un mode d'expression enseigné par l'esprit, les mots, les paroles enseignées par l'esprit, avec le fond du mystère qui vient de Dieu. Il me semble ici que nous avons un passage très intéressant qui déjoue la manœuvre, que je pense une manœuvre de l'esprit du mensonge, qui accepterait l'idée que oui, par l'inspiration de l'esprit de Dieu, la substance de la vérité divine nous est transmise, mais que la forme, alors, n'est qu'humaine, et peut-être traitée de manière assez diverse et éventuellement dépréciative. L'insistance de l'apôtre, c'est que l'esprit donne la forme comme le fond. Qu'il y a combinaison, sous la conduite de l'esprit, aussi bien d'un langage approprié, qui ne peut pas être dévalué, et de cette révélation du mystère. Or, l'homme psychique, on traduit généralement l'homme naturel, l'homme laissé à ses seules ressources, littéralement c'est l'homme psychique, dont la vie intérieure est déterminée sous l'angle. C'est pas une autre partie de l'être humain, je crois, mais c'est une façon de désigner l'être humain qui souligne ses capacités naturelles. Donc, l'homme psychique, laissé à ses propres ressources, si vous voulez, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car pour lui, c'est une folie. Et il ne peut les connaître. C'est toujours ce verbe connaître qui suggère un processus de pénétration. C'est quelque chose de fermé pour lui, qui demeure étranger. C'est un texte très très fort sur l'incapacité naturelle de l'être humain à accéder à la vérité salvatrice de Dieu. Parce que c'est spirituellement, alors je pense que ce n'est pas tout à fait qu'on en juge, contrairement à nos traductions habituelles, parce que nos traductions habituelles, il faut bien faire quand même avec ce qu'on a, hein, j'ai fait de la traduction biblique aussi. Ce n'est pas le verbe juger, simplement, c'est le verbe juger avec un préfixe qui désignait plus spécifiquement le travail du juge d'instruction. Ce n'est pas poser un verdict, c'est instruire une affaire. C'est rassembler les faits et les interpréter, voir quel est le schéma qui va rendre compte des données de la manière la plus adéquate. C'est spirituellement qu'on est capable d'interpréter ces réalités spirituelles. L'homme spirituel, l'homme ou la femme, hein, c'est le spirituel, interprète, c'est le même verbe, tout, et il est lui-même interprété par personne. L'homme spirituel, ayant conduit par l'Esprit de Dieu, a les outils voulus, les perspectives générales qui permettent d'interpréter la réalité comme il faut. Et lui-même, il est une énigme insoluble pour ceux qui le voient. Fatalement, il s'interprète mal ce qu'il en est de sa profession chrétienne, de sa conduite. Vous voyez, l'intérêt de traduire « interpréter » pour ce verbe avec sa nuance. Car qui a connu la pensée, c'est le mot pour intelligence, pour raison, couramment en grec, qui a connu la pensée, l'intelligence du Seigneur, qui lui a donné conseil, mais nous avons la pensée, l'intelligence de Christ. La première partie de ce dernier verset est une citation d'Ésaïe 40. Le mot qui est traduit « pensée »,« raison »,« intelligence » dans le grec, de la version grecque, qui est repris ici, c'est le mot « esprit » dans l'original, c'est « voir » dans Ésaïe 40. Mais l'apôtre a choisi de mettre en valeur cette composante de sens du mot « esprit », c'est une composante de sens, aussi dans l'Ancien Testament, c'est pas seulement une force, c'est aussi une intelligence. Et il a choisi donc le mot qui signifie intelligence, en soulignant que si nul, par ses propres ressources, à partir de son psychisme, de toutes ses ressources mentales, ne peut connaître la pensée du Seigneur, il nous est donné, de telle sorte que nous pouvons dire nous avons. Il nous est donné de connaître la pensée du Christ, qui est le Seigneur. Vous voyez comment les éléments de ce passage se confortent mutuellement, nous présentent un tableau très, très très fort du rôle de l'Esprit dans la communication des choses mystérieuses que Dieu a prédestinées à notre participation à sa gloire. Alors à coup sûr, parmi ces choses mystérieuses que Dieu veut nous faire connaître pour nous faire participer à sa gloire, il y a la doctrine de la triunité divine, ce que Luther appelait le haut article de la majesté divine. Brièvement, un seul Dieu existant en trois personnes éternellement distinctes. C'est le sujet que nous voulons essayer de scruter ensemble avec l'aide de l'Esprit de Dieu et en recourant aux Écritures dont il a communiquer non seulement le fond, mais même la forme, d'après le témoignage que nous venons de lire. Alors il faut souligner l'actualité de notre recherche commune sur ce sujet. Pendant assez longtemps, je veux dire 2-3 siècles, ça fait quand même assez longtemps, le dogme de la Trinité n'a guère fait l'objet de beaucoup d'attention, de reprise, en tout cas dans la plupart des secteurs de la chrétienté. Les orthodoxes maintenaient, mais ils répétaient sans trop se poser d'autres questions. Les libéraux rejetaient ou réinterprétaient de manière tellement sauvage qu'on était très loin. Nous allons reparler d'ailleurs de cette histoire demain. Depuis quelques décennies, je pense que c'est depuis une trentaine d'années essentiellement, le sujet de la Trinité est devenu un sujet très très chaud. Il a paru beaucoup de livres sur le sujet et d'articles. C'est un sujet sur lequel les théologiens foncent comme des abeilles sur les fleurs les plus odorantes. Au point qu'un de ses auteurs, d'ailleurs, a pu dire que un tel engouement risquait d'obscurcir le sujet plus que de l'éclairer. En tout cas, c'est un sujet qui est dans l'air, pour les théologiens en tout cas. Et je pense que ce qui est valide parmi les théologiens finit toujours par filtrer aussi jusque dans la vie de toutes les églises. Le sujet est important. En soi, de cela vous avez conscience, il est aussi spécialement actuel. Et c'est une raison qui confirme l'intérêt du choix qui a été fait par les organisateurs qui nous fait nous porter sur ce sujet. Alors, quels ont été, c'est mon premier point, première partie si vous voulez, quels ont été les facteurs de ce regain d'intérêt porté à la doctrine de la Trinité? J'en ai relevé 4 ou 5, et je ne prétends pas que ma liste soit exhaustive, mais je donne une petite idée de l'actualité théologique. Il y a un élément qui a commencé de porter son fruit, de manifester son efficacité, je pense environ à partir du milieu du XXe siècle, ce sont les échanges avec la chrétienté orientale, celle qu'on appelle orthodoxie byzantine et russe. Il y a les échanges que notre monde moderne a multiplié de manière générale. Le monde est devenu plus petit et ça va sans cesse plus vite. Il y a eu l'émigration russe comme un facteur très important, en particulier pour le monde francophone. L'émigration russe, après la révolution de 1917, ça a été des milliers et des milliers de personnes, souvent avec une formation, une culture importante, et la plupart se sont retrouvés en France ou aux États-Unis. C'est là que les deux régions d'émigration russe importantes ont eu lieu. Ça a suscité, bien sûr, des conversations qui, peu à peu, ont fini par intéresser d'autres alentours. Il y a eu la participation des orthodoxes au mouvement écuménique. Les orthodoxes de Constantinople y ont participé dès la décennie 1920. L'église orthodoxe russe, elle, a attendu l'assemblée de la Nouvelle Delhi au début des années 60, donc ça a été plus récent, mais l'orthodoxie a été partie prenante et cela a conduit à de très, très nombreux dialogues. Alors, en quoi est-ce que cela a contribué à l'actualité du sujet de la Trinité? D'une part, les orthodoxes ont ce sentiment, on peut très bien discuter d'ailleurs, mais ont ce sentiment qu'ils ont été plus trinitaires que le christianisme occidental latin. Ils ont préservé la distinction des personnes, l'attention pour ce mystère, bien davantage. Et ils ont souvent fait valoir ce point de vue dans les conversations. Et en tout cas, l'un des deux points de différence doctrinale qui font encore mal aujourd'hui entre ce christianisme byzantin et russe, gréco-russe en gros, si on veut résumer, et le christianisme occidental, catholique et protestant, et évangélique, c'est la question de la procession du Saint-Esprit dans la vie trinitaire, la vie éternelle constitutive de la Trinité. Doit-on dire que le Saint-Esprit procède, découle, si vous voulez, du Père, ou doit-on dire qu'il découle du Père et du Fils? Et du Fils, ça se dit en latin filioque, et très souvent on parle de cette question comme la question du filioque. Ça veut dire et du Fils pour la procession du Saint-Esprit. Avec la question du Pape, c'est la question doctrinale qui sépare Constantinople, Moscou, et Rome, et puis aussi Genève, Lausanne, et Witten, les évangéliques aussi bien. Donc, c'est une question de théologie trinitaire, une question particulière. Je ne suis pas sûr que nous ayons le temps, parce que notre temps est quand même compté, de nous pencher vraiment sur ce débat, mais sachez qu'elle contribue à faire de la théologie trinitaire une question d'actualité entre les Églises. Deuxième grand facteur, le renouveau charismatique, ou peut-être plus généralement encore, le pentecôtisme et le néo-pentecôtisme, et les diverses formes, les diverses vagues, comme on les a appelées, de ce mouvement qui a traversé le XXe siècle, qui constitue, pour l'histoire religieuse, un des événements majeurs du XXe siècle. En mettant l'accent sur une expérience distincte, particulière du Saint-Esprit, ce mouvement a suscité plus d'intérêt sur la diversité interne de Dieu, donc la Trinité. Dans le Nouveau Testament même, nous aurons l'occasion de le remarquer peut-être demain matin, c'est quand il est question du Saint-Esprit que les déclarations ont la forme trinitaire la plus explicite. C'est quand on se concentre sur le Saint-Esprit qu'on est amené à traiter de la Trinité comme telle. Et donc, cet accent sur l'œuvre de l'Esprit, dans ses caractères distincts, a certainement contribué au nouvel intérêt pour la théologie trinitaire. Troisième facteur, ce grand mouvement de notre culture, cette espèce de mutation que certains appellent postmoderne, mais je trouve que c'est un terme qui risque d'égarer plus que d'éclairer. J'ai suggéré qu'on discute au moderne post, parce que c'est la modernité qui continue. Ce n'est pas vraiment une page importante qui soit radicalement tournée. Bon, mais ce que certains appellent postmoderne, c'est une mutation qui privilégie le pluriel contre la tradition de l'insistance sur l'unité. Ça date essentiellement des années 60. Et il y a eu, à coup sûr, un tournant, une mutation importante. Elle n'a pas tout révolutionné, mais elle a marqué. Et une de ses caractéristiques, c'est l'exaltation du pluralisme par opposition aux tendances totalitaires et donc unificatrices qui avaient prédominé. Le mouvement de destruction, de rébellion contre les systèmes unificateurs, les grands récits, comme on dit parfois, qui embrassent tout et qui unifient donc. Ce mouvement a été caractéristique de cette mutation. Et aujourd'hui, le mot différence est glorifié. Cet accent que met notre culture sur la différence, différenciation, la diversité, explique, me semble-t-il, que beaucoup de théologiens qui jusque-là s'intéresse essentiellement à l'unité divine et semblait privilégier le thème de l'unité divine, du coup se soit mis à s'intéresser beaucoup à la Trinité, dans la mesure où le dogme de la Trinité met en relief une différenciation interne du divin lui-même. Et un facteur se combine à celui que je viens de désigner, ces choses-là travaillent ensemble, la présence de l'islam, le face-à-face avec l'islam dans nos pays, qui est devenu quelque chose de très brûlant, peut contribuer aussi dans la mesure où c'est la différence avec l'islam. Donc le sentiment d'une identité démocratique occidentale, la démocratie étant pluraliste, face au totalitarisme de l'islam, l'islam qui est passionné d'unité. On raconte qu'un des premiers convertis de Mahomet, un moment, était parti dans une simple répétition. Ça fait partie des choses que l'on raconte. C'est un vertige, une ivresse de l'unité pure. Alors face à cette caractéristique de l'islam, caractéristique religieuse, mais qui ensuite commande toute la conception de la société, le refus d'un pluralisme, de l'idée d'une séparation Église-État, est impensable. La société doit être une sous la conduite du Dieu unique. Le face-à-face, une telle conception avec la tradition occidentale a pu conduire à une réflexion accrue sur la Trinité. Et puis, dernier facteur que je mets en relief, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Nos intellectuels, depuis, je pense, un peu plus de deux siècles, sont très tentés par ce qu'ils appellent, de plus en plus, c'est un mot d'abord qui n'a pas été très souvent utilisé, mais qu'ils appellent de plus en plus, panenthéisme. Je vais peut-être le mettre au tableau. Voyons, je croyais.
Les crayons sont sur le tableau.
Ils sont là, d'accord. Je suis reconnaissant d'avoir c'est un mot qui a été forgé par un certain Krause, Carl Christian Friedrich Krause, dans la première moitié du 19e siècle. Et vous voyez comment il est formé. Ce n'est pas le panthéisme, c'est pan. Tout, en, comme en anglais comme en français, et théisme de théos, Dieu. Tout est en Dieu. Je crois que théologien assez connu a assez bien résumé la situation en disant c'est en quelque sorte intermédiaire entre le théisme, qui est la position chrétienne classique, un Dieu personnel distinct du monde, que l'on distingue fortement de sa création, ça c'est le théisme, et le panthéisme, où l'on dit que Dieu est le tout. Panthéisme. Le panenthéisme, c'est une position qui se voudrait intermédiaire. Tout est en Dieu, alors il y a des aspects de Dieu qui dépassent le monde, mais le monde est une modification interne de Dieu. Mais le monde est divin. Au bout du compte, je crois qu'on doit assimiler au panthéisme le panenthéisme. C'est une forme plus timide, un peu moins radicale et audacieuse, mais finalement elle revient au même. Il n'y a pas de différence d'être entre Dieu et le monde. Et les panthéistes, même les plus outrés, ont toujours fait quand même une certaine distinction entre Dieu comme tout et puis quand même le monde tel que nous le connaissons dans notre expérience. Donc, qu'il y ait une petite distinction n'empêche pas que ce soit panthéiste. Alors, ce panenthéisme, si on s'en tenait à la seule étymologie, on pourrait dire, mais c'est d'accord, hein, parce que nous disons bien que tout est en Dieu. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, en lui, toute réalité se trouve, dans ce sens-là. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que le terme est employé couramment. Il est employé dans ce sens que le monde fait partie de l'être de Dieu. Ce que la foi biblique en la création récuse, rejette. Tout est en Dieu, mais suspendu à la libre décision de Dieu, comme objet de son gouvernement, rempli de sa présence, mais sans confusion. Ça, c'est la façon biblique de penser que tout est en Dieu. Ce n'est pas la façon panthéiste de le penser, qui est en fait un panthéisme mitigé. Alors, la tendance panthéiste est très puissante parmi les intellectuels. Elle combine deux désirs qui s'amalgament en quelque sorte dans la pensée panthéistique. Le désir quand même de préserver quelques références à l'absolu, à Dieu. C'est très difficile d'être un pur athée. Et c'est Jean-Paul Sartre qui l'a dit. Jean-Paul Sartre, dans les mots, confesse à quel point il a été difficile pour lui de se débarrasser, non seulement de la foi en Dieu, mais de tous les substituts de cette foi en Dieu. On ne parle plus de Dieu, mais en fait, c'est quand même toujours un Dieu. Alors, il croit qu'il y est arrivé au bout, c'est même pas sûr. Et le panthéisme permet d'avoir quand même un Dieu. Et puis, en même temps, de contenter cette revendication caractéristique de l'homme moderne, on pourrait dire de l'homme pécheur, mais de l'homme moderne par-dessus tout, d'être lui-même le point de référence absolu, d'être le centre comme Dieu, à partir duquel toutes les valeurs se déterminent, toutes les perspectives se tracent. Le panthéisme, en incluant la réalité du monde, donc les humains, en Dieu, leur confère une divinité et en même temps garde un certain sens de Dieu au-delà. Or, le panthéisme peut exploiter le dogme de la Trinité divine de manière qui, je crois, en adultère radicalement le sens, mais c'est faisable, c'est très tentant. Parce que le dogme de la Trinité dit que en Dieu, il y a le Père, le Fils, l'Esprit, le Fils, qui est l'homme Jésus, une créature, un être du monde. Le dogme de la Trinité inclut un homme dans la divinité. Alors ça fait tout à fait l'affaire du panthéisme. Je considère que c'est la tentation même de la pensée moderne, nous y reviendrons, que d'interpréter la Trinité en y incluant l'homme Jésus comme tel, comme homme. C'est là le mensonge subtil qui se glisse. De telle sorte qu'une divinisation de l'humanité s'opère automatiquement. Mais le modèle de la Trinité a l'air de très bien se prêter à une interprétation panthéiste. Il y a peut-être encore d'autres facteurs qui expliquent que beaucoup de penseurs s'intéressent au sujet de la Trinité. Et je passe maintenant à un deuxième élément de mon exposé de ce soir. Nous faisons peut-être une petite coupure de questions, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire. Oui. Je pense qu'on peut dire que toute la difficulté de la question que vous soulevez, c'est celle du sens du mot communion. En fait, c'est un mot qui peut se prêter à pas mal d'interprétations diverses. On peut le concevoir au sens d'une participation d'être. Et à ce moment-là, alors on serait très près d'un panthéisme. peut-être avec l'idée que ce panenthéisme n'est pas premier, mais qu'il est un point d'aboutissement. Mais on peut aussi comprendre communion dans un sens qui préserve parfaitement la distinction des natures, qui ne confond en aucune façon le Créateur et la créature. Être en communion avec Dieu, c'est pour nous être humain, et simplement humain, mais avec la liberté de parler, avec la liberté d'aimer, de savoir aimer, être en accord de volonté, en préservant parfaitement la distinction. Ça mérite aussi le nom de communion. Et le mot koinonia dans le grec du Nouveau Testament correspond à toute cette gamme de sens. Il peut désigner une participation qu'on dira donc, d'être ontologique, terme technique, mais il signifie aussi une association, n'importe quelle association. Une association professionnelle, ce sera aussi une koinonia dans le grec du 1er siècle. Donc vous avez toute une gamme, et tout dépend de la manière dont vous concevez le mot communion. Voilà, au moins à ce stade, comment j'essaierai de répondre. Alors, je passe à mon second point. Je vois quand même que l'heure tourne aussi, donc je vais vous annoncer les points qui viennent. J'ai trois sections qui correspondent assez à ce que j'ai donné dans le résumé, mais c'est un peu plus schématique. Le principe externe de connaissance, la réception de la parole de Dieu et le rapport de l'intelligence au mystère. Ce sont là les trois sous-titres dans mes notes que je vais essayer maintenant donc de parcourir avec vous. L'expression principe de connaissance vient de la théologie traditionnelle. On disait il y a un principe interne de connaissance qui permet de faire de la théologie, et un principe externe de connaissance. Le principe interne de connaissance, c'est la foi. Faire de la théologie, il faut s'engager dans la foi. Le principe externe, c'est la parole de Dieu. Et c'est le point que je veux mettre en relief maintenant. C'est parce qu'il y a révélation verbale, parole que Dieu nous adresse, qu'il nous est possible, et dans la prière qui a été prononcée tout à l'heure, à laquelle nous avons dit Amen, c'est un thème qui a déjà été évoqué. Si nous pouvons parler de Dieu, c'est que Dieu nous a parlé. Notre théologie ne peut être que confessionnelle. Le mot confesser dans le Nouveau Testament est littéralement formé par un préfixe et une racine verbale, dire comme, dire de même. Confesser, c'est dire oui, c'est bien ça. Et la théologie doit être une théologie de la confession. Dieu nous a parlé et nous répétons pour nous-mêmes ce qu'il nous a dit. Nous confessons la vérité qu'il nous a communiquée. Cela correspond au thème de la première épître aux Corinthiens chapitre 2, dans ce que nous avons lu. L'homme laissé à ses seules ressources, il ne peut pas. Mais Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Et l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il peut nous parler, lui, du mystère de l'être de Dieu. Calvin disait, seul Dieu est témoin suffisant de soi. C'est dans l'Institution, livre 1er, chapitre 11, le premier paragraphe. Et Pascal, c'est Pascal dans les pensées, a cette pensée très, très connue, sous-entendu seul, Dieu parle bien de Dieu. Dieu parle bien de Dieu. Dans la numérotation, il y a plusieurs numérotations rivales, mais dans la numérotation Brunswick, c'est la pensée numéro 799. Seul Dieu parle bien de Dieu. Je voudrais souligner à quel point la chose est importante pour le dogme de la Trinité. je ne vois pas comment je pourrais échapper à ce qu'on appelle l'hérésie modaliste si je n'étais pas sûr que Dieu lui-même me dit qu'il est un et trine éternellement. Si je devais bâtir la doctrine de la Trinité simplement sur les faits de l'intervention divine au cours de l'histoire, je n'oserais pas dire que du coup Dieu est trois personnes toujours. C'est tellement inouï, c'est tellement ce que le cœur de l'homme n'a pas pu forger, que je dis non, je tomberais dans le modalisme, l'idée que c'est trois formes de manifestation, trois façons de se faire connaître pour Dieu, que je peux distinguer avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais je n'oserais pas, sur la base de la seule histoire, dire c'est la vérité éternelle de Dieu. Mais si Dieu me le dit, alors là, non seulement j'ai le droit, mais j'ai le devoir de le dire. J'ai la liberté et l'obligation à la fois de le dire. Vous voyez en quoi cet appui sur la parole de Dieu est décisive pour l'élaboration du dogme de la Trinité. Mais encore faut-il que cette parole nous atteigne vraiment où nous sommes. Là où nous commençons à théologuer, à faire de la théologie, à réfléchir et à mettre en mots ce qui nous est dit pour le confesser droitement. Car si la parole de Dieu était quelque chose comme un éclair à mi-hauteur, ça ne nous permettrait pas d'avancer en théologie de manière bien assurée. Or, c'est précisément ce que l'Écriture nous atteste. Dieu nous a parlé notre langue. Il est venu jusqu'à notre niveau, le niveau de notre travail de pensée. L'Esprit nous a communiqué ces choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme dans des mots qu'il a lui-même enseignés aux apôtres. Vous voyez la pertinence de l'accent que met l'apôtre dans le passage que nous avons lu. Et c'est, me semble-t-il, là l'immense importance de la doctrine de l'inspiration des Écritures pour le travail théologique. Il y a beaucoup de théologiens qui parlent de la Trinité sans croire à l'inspiration plénière des Écritures. À mon avis, ils construisent sur des sables mouvants. Ils peuvent dire des choses intéressantes, ils en disent des choses intéressantes, mais pour avoir une base solide pour l'affirmation trinitaire, il me semble qu'il fallait que Dieu nous donne ce qu'il nous a donné d'après le témoignage biblique, sa parole dans les mots humains qu'enseigne l'Esprit. C'est donc là le point déterminant, le principe de connaissance externe. C'est par l'Écriture sainte, parole de Dieu, qui nous est donnée une fois pour toutes dans notre langage, que nous allons pouvoir dire quelque chose qui ne soit pas trop boiteux sur ce mystère de Dieu, même les profondeurs de Dieu. Mais il ne suffit pas d'avoir la parole de Dieu qui descend jusqu'à nous, jusqu'à notre propre niveau. Il faut encore que nous la recevions droitement. Ça, c'est le point suivant. C'est une des perfections, disent les théologiens d'autrefois, de l'Écriture sainte, que sa clarté. Ils employaient souvent le mot latin perspicuitas. L'Écriture n'est pas une prophétie de Nostradamus. L'Écriture n'est pas écrite dans un langage codé, bizarre, qu'on devrait traiter à la manière des grimoires ésotériques. L'Écriture est écrite dans le langage clair que tout le monde peut aborder. Mais ça ne veut quand même pas dire que tout soit simple et facile à comprendre. dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 3, il y a la mention des difficultés de compréhension, en particulier dans les épîtres de Paul, aux yeux de Pierre dans ce passage. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre et que des personnes mal affermies tordent dans leur lecture. Donc, la clarté de l'écriture, qui signifie qu'en principe, ce n'est pas de l'ésotérisme, n'empêche pas qu'il y ait un problème de la juste réception d'une lecture appropriée. La réception est une activité responsable qui implique qu'on se mette en branle, qui implique qu'on travaille. Et oui, on peut transpirer sur des études de type exégétique et biblique. Il me semble que c'est l'expérience que font parfois certains jeunes qui deviennent étudiants dans les facultés de théologie de l'Institut biblique. J'ai cru le remarquer, merci, j'ai cru le remarquer dans la vie de la faculté. Un certain nombre d'étudiants abordent des études de théologie avec l'expérience de camps de jeunes pour un premier mode d'études bibliques. Alors ça s'est fait dans une ambiance de vacances, ça s'est fait dans une ambiance de camaraderie et de grande liberté. Alors ils sont un peu défrisés quand ils voient qu'il faut travailler, vraiment travailler dur pour les cours, qu'il faut apprendre les langues originales, qu'il faut... Eh oui, il y a du travail. Ça fait partie de cette activité réceptrice qui est en cause. Qui dit aussi activité dans la réception, suggère que diverses stratégies peuvent être mises en œuvre. Pour tous les livres, au fond, nous avons des stratégies plus ou moins conscientes que nous développons pour aborder le sujet. Nous choisissons un angle, nous voyons si ça colle, nous revenons éventuellement en arrière si ça n'a pas l'air de coller. Nous avons des stratégies diverses. Tout ça fait partie de la réception. Alors que dire à propos donc de cette activité réceptrice? D'abord, que nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit de Dieu. Et nous revenons toujours à notre passage d'1 Corinthiens 2. Ce n'est pas choisi par hasard. Je n'aurai pas d'autres commentaires aussi développés, je pense, pour d'autres passages que je lirai demain. Mais là, c'est vraiment un passage très important pour la manière d'aborder notre travail récepteur. Et donc, non. Nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit. Nous ne sommes pas capables vraiment de comprendre ce qui nous est dit, ce qui nous est révélé par l'Esprit sans l'Esprit. Je pense qu'il y a divers aspects qu'on peut évoquer. D'abord dire que, oui, celui qui n'a pas l'Esprit peut reconnaître certains éléments. Il peut bien connaître ses conjugaisons grecques ou hébraïques et reconnaître la forme d'un verbe. Mais il ne pourra pas sainement comprendre vraiment ce qui est dit sans l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, pourquoi ne pourra-t-il pas? Il ne le pourra pas, mais simplement pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il est aveuglé, d'après le témoignage biblique, aveuglé par les partis pris qui sont les siens face à Dieu. Il ne veut pas rendre gloire à Dieu. Il veut protéger son indépendance, être le maître de sa propre vie. Il ne peut pas accepter le jugement que Dieu porte sur certains des actes qu'il commet. Donc, à cause de tout ce qui le lie intérieurement, par ses propres choix, il tord forcément ce qu'il lit. Et c'est pourquoi il est nécessaire que le voile devant les yeux soit ôté dans l'expérience personnelle de l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Ça a été représenté par ses écailles. Le Seigneur a permis qu'il ait une expérience de cécité temporaire comme symbole de cette libération de cette vieille façon de voir qui faisait tordre le sens de l'Ancien Testament. Lorsqu'il a rencontré Ananias, les écailles lui sont tombées des yeux. La nécessité, à cause de tous les a priori qui tordent et truquent ce que nous lisons même, lorsque nous ne dépendons pas de l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et seconde raison, c'est qu'on ne peut pas parler de façon qu'il comprenne vraiment à un aveugle de naissance des couleurs. Le langage a sens lorsqu'il y a eu une expérience qui correspond à ce langage. S'il n'y a eu aucune expérience qui lui correspond, on peut essayer d'imaginer, mais on ne peut pas vraiment comprendre. Les choses de l'Esprit de Dieu ne peuvent pas être vraiment comprises par celui qui n'y a aucune part. C'est quelque chose de radicalement étranger. Il entend un mot, mais il n'y a rien pour sous ce mot pour lui, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu pour lui faire éprouver ce qu'est la réalité correspondante au terme. Tous ces facteurs, et on pourrait sans doute encore affiner, indiquent que nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit de Dieu dans notre réception de l'Écriture. Et ce qui veut dire que nous faisons bien de prier. Et pas une prière simplement de forme, hein, mais de prier pour que le Seigneur nous conduise dans notre travail théologique. Ensuite, il me semble utile, dans la situation présente de la théologie, à cause de conceptions courantes, de rappeler un certain nombre de points sur la réception de l'Écriture. Il me semble qu'une saine vision des choses correspond au point suivant. Il s'agit pour nous de recevoir, même si nous sommes actifs, même si des stratégies sont à mettre en œuvre, il s'agit pour nous de recevoir le sens et non pas de le créer, de l'inventer. Le lecteur n'est pas le créateur du sens. Or, vous savez, dans le champ des études littéraires en général, et y compris dans le champ des théologiens, vous en avez beaucoup aujourd'hui qui disent le contraire, qui glorifient la créativité du lecteur qui serait source de sens. Je crois que ça correspond à une négation subtile de la priorité de celui qui parle, et celui qui parle, d'abord, c'est Dieu. Autre point, dans le cas général, il peut y avoir une ou deux exceptions pour des raisons très, très précises. Quand quelqu'un parle, il y a un seul sens. Et c'est le cas de la Bible, dans la mesure où l'inspiration divine correspond à une union voulue par Dieu entre son esprit et l'auteur humain qui parle, de telle sorte qu'il n'y a pas deux sens différents. Il n'y a pas un sens de Dieu et un sens de l'être humain. Si ça arrive, je pense que c'est arrivé dans le cas de Caïphe, avec sa prophétie involontaire, c'est un jugement. Mais ce n'est pas le modèle pour l'inspiration, de l'inspiration qui est au contraire une grâce. Dieu condescend à utiliser ce porte-parole qui sera pleinement actif et responsable dans l'exercice de son ministère, c'est pourquoi il a ses récits de vocation, et l'Esprit de Dieu donc parle par lui, vraiment par lui, de telle sorte qu'il n'y a pas deux sens différents, le sens de Dieu et le sens de l'homme. Cela veut dire donc que nous avons à chercher le sens de ce qui est dit. Alors tout de suite, je prévois une objection quand même, mais nous voyons bien dans certains cas que Dieu veut dire bien plus que ce que l'auteur humain peut concevoir. Alors, il me semble que cette objection est résolue assez facilement. Je vous livre en résumé des choses qui pourraient être discutées bien plus longtemps. Je crois qu'il faut distinguer entre le sens qui est dit, qui est énoncé, et qui est le même pour Dieu et pour son instrument humain, Car Dieu, justement, par son inspiration, fait que l'instrument humain dit le sens que Dieu veut émettre. Et puis, les applications. Tout ce que Dieu pense à propos du sens qu'il énonce. Dans la première épître de Pierre, il est dit que les prophètes s'interrogeaient sur le temps de l'accomplissement, sur la manière de l'accomplissement. Ce n'est pas le sens du texte, ce n'est pas le sens de la prophétie. C'est tout ce que Dieu avait à l'esprit. Savait bien, dès le moment de la prophétie, qu'il mettrait en œuvre, mais qui n'appartient pas au sens même de la prophétie. Si nous distinguons ainsi le sens même de ce qui est dit, de toutes les pensées de Dieu à son propos, et de toutes les intentions de Dieu à son propos, alors je crois qu'on doit dire que le sens divin et le sens humain sont identiques pour un texte biblique, et que c'est ce que nous avons à chercher. Le sens est lié toujours au contexte. C'est une thèse qui est aujourd'hui fréquemment énoncée et qui, je crois, est essentiellement juste. Lorsque nous disons quelque chose, nous le disons toujours dans un contexte donné. Et ça colore le sens, ça le détermine. Mais le sens n'est pas pour autant prisonnier du contexte. Il peut énoncer une vérité qui dépasse le contexte particulier. Et il faut dénoncer ce qu'on a appelé le sophisme du contextualisme, où l'argument du contexte est utilisé pour radicalement emprisonner dans un temps donné une situation, quelque chose qui est dit, de telle sorte que ça ne nous concerne plus. En tout cas, je crois qu'il faut dire, oui, il y a un lien au contexte, mais il n'y a pas captivité du contexte. Et d'autre part, deux choses sont d'ailleurs liées, n'oublions pas que les contextes ne sont pas infiniment différents les uns des autres. Qu'il y a des éléments communs aux divers contextes. Et que tous les contextes ensemble sont embrassés dans le dessein de Dieu. De telle sorte que le pluralisme, qui exalte la pluralité comme un principe absolu, nous ment et détruit l'application universelle de la vérité en ignorant le lien des contextes entre eux. Un point encore dans ces délimitations de la méthode que je crois saine, la tâche de réception est à la fois individuelle et communautaire. Nous ne pouvons pas abdiquer notre responsabilité individuelle. Chacun portera son propre fardeau devant Dieu et rendra compte de toute parole qu'il a prononcée. Je crois que l'accent sur la responsabilité individuelle est ineffaçable du Nouveau Testament. Mais nous ne sommes pas de purs individus. Nous sommes liés les uns aux autres. Et Dieu veut que ce soit ensemble que nous cherchions le sens de sa parole et que nous la recevions pour la confesser et pour la mettre en pratique. Il y a aspect à la fois individuel et communautaire, ce qui joue aussi pour l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit, par la communauté, c'est l'Esprit qui nous lie les uns aux autres, et par les dons qui sont faits à la communauté. Donc, les deux aspects. Et la communauté n'est pas simplement la communauté d'un temps donné. La communauté, finalement, elle embrasse les générations successives. Et donc la recherche du sens divin et humain à la fois de l'Écriture, grâce à quoi nous allons pouvoir recevoir les choses que l'Esprit de Dieu nous a révélées, c'est une recherche qui se fait avec toutes les générations qui nous ont précédées. Ce qui s'appelle la tradition. Alors, il faut mentionner que la tradition est une aide normalement voulue de Dieu. Ça correspond à un don de l'Esprit de Dieu dans notre réception de la vérité biblique. Alors, la tradition n'est pas au même rang d'autorité que l'Écriture elle-même. Nos frères aînés ont été faillibles comme nous le sommes nous-mêmes. Donc c'est une aide, ce n'est pas un principe que l'on doit laisser en pratique peser au-dessus de l'Écriture même. Mais c'est une aide précieuse pour laquelle nous devons rendre grâce, pour laquelle nous devons avoir la plus grande attention. Et cela me semble particulièrement important pour la doctrine de la Trinité. C'est pourquoi je reparle tout spécialement ce soir. La doctrine de la Trinité a été travaillée par des hommes et des femmes de Dieu à travers tant de générations. Et il y a une remarquable unanimité de tous ceux que nous désignons comme nos ancêtres dans la ligne évangélique. La Trinité a été mise au point au temps des Pères de l'Église, mais elle a été reprise expressément, approuvée comme biblique par les réformateurs et par les grands hommes de réveil dont nous sommes les héritiers. Alors, il me semble que dans de telles conditions, la tradition doctrinale, théologique de la Trinité doit peser lourd dans nos balances. Nous pouvons être amenés à corriger, mais attention, il est assez peu plausible que nous trouvions quelque chose à changer très, très radicalement. L'attitude juste me semble être aussi de docilité à l'égard de la tradition sur un tel sujet qui a été un sujet de consensus pour ceux qui nous ont précédés dans cette ligne évangélique. Alors nous aurons l'occasion, en retraçant brièvement l'histoire du dogme dans la seconde étude demain, de voir comment cela se précise, mais sans élever la tradition au rang de principe d'autorité à quoi nous devrions simplement nous soumettre, je souligne le poids qu'elle doit avoir pour nous. J'ai tendance à considérer, ça c'est beaucoup plus spéculatif, libre, je ne vous propose pas cette thèse comme une thèse bien assurée, mais j'ai tendance à penser que Dieu, dans l'économie de l'histoire, a voulu que certaines vérités soient spécialement travaillées à certaines époques, et qu'il y ait là un travail qui soit fait pour toutes les générations suivantes, qui soit valide. Certes, chacun doit examiner les choses pour se réapproprier personnellement, mais le travail a été fait. Je pense que sur la Trinité, et sur ce qui concerne d'ailleurs la personne de Jésus-Christ incarné, l'Église ancienne des premiers siècles a fait ce travail pour nous. Nous pouvons toujours continuer d'y réfléchir, mais il faut recevoir ce trésor d'aide que nous ont légué les premières générations chrétiennes. Comme pour les vérités centrales du salut, la génération de la Réforme a pu le faire. Donc, je suggère cette façon de considérer l'histoire. Finalement, je vais essayer d'être bref parce que je voudrais qu'il y ait encore temps pour des questions et des débats entre nous. Le rapport de l'intelligence au mystère. Nous avons trouvé le mot mystère dans le texte de la première épître aux Corinthiens, mais aussi le terme qui se traduit très couramment intelligence en grec. J'ai fait ressortir ces deux choses. Dans la Bible, je vous l'ai dit, un mystère est d'abord un secret du plan de Dieu dans l'histoire. Par exemple, concernant la destinée d'Israël, au chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Mais dans la mesure où l'idée de secret, d'impossibilité pour l'homme naturel d'y accéder, en mettant en œuvre ses propres ressources, dans la mesure où cela s'attache aussi à l'idée de mystère biblique, considérer un mystère comme une vérité que l'homme ne peut pas maîtriser par sa raison me semble justifié. Il nous faut en effet dire, nous sommes là en face de quelque chose que la raison humaine ne peut pas démonter, ne peut pas prendre en quelque sorte de haut, mettre tout sur une table. Il n'y a pas de domination comme nous avons parfois l'impression, c'est peut-être une impression pas si juste que ça, mais l'impression que nous dominons un problème. Quand nous avons bien analysé les choses, résolu une question technique, nous pouvons avoir l'impression de dominer par l'intelligence. En tout cas, ce n'est pas possible avec la triunité divine. C'est un mystère qui nous dépasse et qui exclut donc le rationalisme qui fait de la raison la maîtresse. Et pour autant, la Bible ne va pas dans le sens de l'irrationalisme, qui sans doute est beaucoup plus typique lorsqu'il s'agit des questions dernières de notre modernité et de notre modernité tardive que le rationalisme même. Nos contemporains, notre culture depuis deux siècles au moins, est principalement rationaliste lorsqu'il s'agit de la nature physique en particulier, de l'instrument mathématique pour la deviner, mais est irrationaliste lorsqu'il s'agit de la liberté humaine, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement. La Bible ne donne pas davantage d'encouragement à l'irrationalisme qu'au rationalisme. Et si l'apôtre utilise le mot intelligence, raison, à la fin de la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, je pense que c'est aussi très significatif. Et il me semble qu'il faut dire que notre tradition évangélique a besoin d'être corrigée à cet égard. Que depuis le piétisme, il y a une certaine tendance à opposer le cœur et la tête, la foi et l'intelligence. Alors certes, les GBU ont fait pas mal pour lutter contre cette déformation et ont traduit un livre de John Stott qui plaidoyait pour l'intelligence, qui a redressé pas mal de perspectives. Mais enfin, il en reste quand même pas mal de cette ancienne opposition dont vous ne trouverez aucune trace dans l'Écriture. Généralement, les gens se tournent vers la première partie de la première épître aux Corinthiens, la folie de Dieu, etc. Mais c'est la folie de Dieu pour ceux qui périssent. Et immédiatement, Paul dit, mais c'est bien une sagesse que nous communiquons parmi ceux qui sont assez mûrs pour s'y mettre. En fait, ce texte ne cède pas du tout à cette perspective irrationaliste qui est devenue assez dominante depuis le romantisme, en gros, dans notre culture. Il y a une sorte d'alliance entre piétisme et romantisme, d'ailleurs. Cela peut s'énoncer de la manière suivante, c'est très classique. Le mystère, le dogme, si vous voulez, le dogme, c'est la doctrine qui a reçu une sorte d'aval officiel par l'Église, dans les réunions de l'Église, ces synodes, conciles, comme vous voulez dire. Donc, le mystère, le dogme, la vérité de la triunité divine est incompréhensible, mais non pas inintelligible. Incompréhensible, dans le langage classique de la théologie, veut dire qui ne peut pas être maîtrisé. Comprendre, c'est prendre tout ensemble et donc en être maître. Elle peut être appréhendée, appréhension, mais non pas compréhension. Incompréhensibilité, ça ne veut pas dire inintelligibilité. Nous sommes appelés à y comprendre quelque chose, à y intelliger quelque chose, mais sans maîtrise. Et j'ajoute une distinction qui m'est assez personnelle, elle n'est pas explicite dans l'Écriture. Donc vous pouvez aussi facilement la rejeter si elle ne vous plaît pas. Mais elle m'a paru utile, mais elle m'a été utile à moi personnellement, me semble-t-il. C'est la distinction entre les mystères incompréhensibles. Il y a des mystères de lumière et il y a un mystère opaque. La plupart des mystères dont nous parlons sont des mystères de lumière. Nous ne comprenons pas, nous sommes dépassés, nous sommes comme sous un rayonnement qui nous éblouit, nous sommes comme environnés d'une cataracte de lumière. Ce sont des mystères de lumière, le mystère de la Trinité, le mystère de l'union de l'humain et du divin en Jésus-Christ. Ce sont des mystères de lumière parce que si nous entrons vraiment dans la pensée biblique, tout est harmonie. Nous ne maîtrisons pas, mais pourquoi maîtriser ? Nous baignons dans la vérité que Dieu nous fait connaître. Il y a joie profonde à être ainsi instruit. Et je crois que si nous sommes gênés, c'est l'indice que notre intelligence ne se met pas dans la ligne comme elle le devrait entièrement. Mais il y a un mystère opaque pour lequel c'est dur, c'est douloureux. Je l'appelle l'écharde dans la chair de notre raison. En me rappelant bien sûr le passage de l'apôtre Paul où il évoque l'écharde dans la chair que le Seigneur lui a imposée pour prévenir toute tentation d'orgueil. L'écharde dans la chair de notre raison. C'est le problème du mal. Il me semble que le livre de Job, que le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, nous montre qu'il est normal que là, je ne puisse pas comprendre et que ce soit pénible, que ce ne soit pas la même expérience avec les mystères de lumière, que je doive simplement me courber. Non, je ne peux pas comprendre. Comment Dieu, parfaitement saint et bon et souverain, permet-il le mal, qu'il abomine ? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et c'est dur, c'est une écharpe. Donc, c'est le mystère opaque qui correspond au caractère absolument singulier du mal. Il y a les mystères de lumière, et il y a ce mystère opaque, comme nous. L'appel, c'est ma formulation, les étudiants le savent, à la faculté. Mystère qui sera sans doute vu sous un autre angle quand le voile se lèvera ou se déchirera. Je pense qu'il n'aura jamais le caractère d'un mystère de lumière. Ce sera autrement. Je ne sais pas comment, du tout. Mais dans notre pèlerinage, nous disons, mais pourquoi Dieu blâme-t-il, condamne-t-il, si rien ne résiste à sa volonté, si c'est lui qui décide tout ? Oh, homme, qui es-tu ? Qui es-tu ? Vas à pied. Tu ne peux pas. Là, c'est un autre type de mystère. Alors, nous n'allons pas l'étudier dans cette session. Ce n'est pas notre sujet. Nous allons tenter de scruter ce que nous pouvons discerner. Dans un miroir, en énigme, connaissant en partie du mystère de la triunité de Dieu. Merci pour votre attention sur ce point. Je n'ai pas fait de deuxième arrêt de coupure pour des questions. J'espère que vous n'en avez pas été trop frustrés. Mais maintenant, nous avons un moment, je pense. Enfin, Monsieur Mélan, je ne sais pas si... Oui, oui. Ben, d'accord. Il n'y a aucun texte de l'Antiquité dont nous pouvons puissions être sûrs que le texte original a été aussi bien préservé. Il y a une telle abondance de manuscrits provenant de la source, bien sûr qui ne date pas, en tout cas, semble-t-il, aucun grand manuscrit, aucun long passage du 1er siècle, pour que nous disions les manuscrits eux-mêmes viennent des apôtres, mais pour, c'est vrai, pour toutes les œuvres de tous les grands auteurs de l'Antiquité, pour Platon, pour Aristote, etc. Et il y a il y a 100 fois, 1000 fois plus de témoins. Donc nous pouvons pratiquement être sûrs que le texte original a été préservé quelque part dans cette diversité de manuscrits. Alors il y a des différences entre eux. Là encore, je pense qu'on peut dire qu'au moins 99,9% de ces différences qu'il y a entre les manuscrits parvenus jusqu'à nous n'affectent pas le sens. Donc, le problème peut être relativisé très sérieusement du 0,1% qui peut encore constituer une différence. Et je ne suis même pas conscient d'une différence qui changerait la théologie entre les manuscrits du Nouveau Testament. Je travaille constamment avec le Nouveau Testament grec. Il y a un résumé de ces différences les plus significatives qui se trouvent dans ce qu'on appelle la paracritique ou la paracritique en bas de page. Je consulte sans arrêt cela. Je vous assure que ça ne me crée pas de problème, pas d'angoisse de conscience, pratiquement à aucun moment. À propos de la Trinité, je peux mentionner une situation tout à fait particulière, c'est le texte sur les trois témoins au chapitre 5 de la première épître de Jean. Dans certains manuscrits très très minoritaires et tardifs, aux trois témoins dont il est question dans le texte auquel vous êtes habitué, l'esprit, l'eau et le sang, sont rajoutés les trois témoins qui sont dans le ciel. Les trois témoins de la Trinité. Alors, certains ont essayé de préserver, pour la doctrine de la Trinité, ce passage. Je crois que les théologiens évangéliques, aujourd'hui, ne tentent plus, vraiment ce serait l'exception, ne tentent plus de le faire. C'est une adjonction d'un scribe ultérieur qui croyait en la Trinité, qui a peut-être mis ça en marge, et puis ensuite ça a été recopié avec le texte. C'est souvent comme ça que ça s'est passé quand il y a eu un ajout de quelques termes. Ça ne présente aucune difficulté dogmatique. Si on ajoute, ça ne change pas la doctrine. Si on le retanche, ça ne change pas non plus la doctrine, parce que la doctrine est bien attestée par le reste du Nouveau Testament. Donc cet exemple est particulièrement significatif dans la mesure où il touche très spécialement la doctrine de la Trinité et où le verdict de ce qu'on appelle la critique textuelle, c'est-à-dire l'examen des manuscrits pour déterminer ce qui a des chances d'être le texte original, où ce verdict est parfaitement clair. On raconte, ça je ne vous garantis pas tout à fait, mais on raconte qu'Érasme ne voulait pas inclure cet élément sur les trois témoins dans le ciel, la Trinité, dans ce passage, en disant que ce n'est dans aucun manuscrit grec. Et, imprudemment, il a dit, si vous me donnez un manuscrit grec qui a cela, alors je l'inclus dans mon Nouveau Testament, qui a été ensuite la base des éditions du Nouveau Testament grec pendant très longtemps. Le texte reçu, comme on l'a dit. Et puis alors, quelqu'un a forgé un manuscrit grec. C'est probablement une fraude. Il l'a présenté à Erasme, il était coincé, il avait dit, si vous me donnez un manuscrit grec, et donc il l'a inclus, et c'est pourquoi il est resté pendant un certain temps dans les villes. Mais je pense que là, la situation est suffisamment claire. Alors ça, c'est la réponse essentielle et, je dirais, factuelle à la question que vous avez soulevée. Je peux ajouter encore une chose qui correspond à un point de vue plus dogmatique. Certains pourraient dire, ah oui, mais si je ne suis pas sûr absolument du texte, Même si je sais que le texte original est préservé quelque part, comme il y a des variantes, si je ne suis pas absolument sûr, alors je n'ai pas ce texte que Dieu même a dit, fait dire par l'auteur. Et donc la doctrine de l'inspiration, finalement, est sans objet, puisque je ne sais pas exactement quel est le texte qui est inspiré. Alors je crois que c'est un faux raisonnement celui-là. C'est pour ça que je viens à ce point aussi. Le fait que vous ayez un disque rayé, avec les CD, je ne sais pas très bien comment ça marche, qui fait un petit crash quand vous le faites passer, ne change pas l'auteur de la musique et le chanteur qui chante éventuellement. Oui, il y a un petit crash à un moment, bien sûr, il ne vient pas de l'auteur, il ne vient pas du chanteur. Mais la qualité de ce qui est dans le disque n'est pas affectée par ce petit détail incident qui l'affecte. Je suggère que les incertitudes qui peuvent intervenir dans quelques passages sur la manière exacte dont c'était formulé à l'origine n'affectent pas ce qui est en jeu dans l'inspiration, à savoir que c'est Dieu lui-même qui nous parle. Oui, il peut y avoir un petit crash de temps en temps. Notre souci, ce n'est pas qu'il n'y ait aucun crash. Nous ne sommes pas simplement désespérément en train de vouloir qu'il n'y ait aucun crash. Notre souci, c'est de respecter la qualité de parole de Dieu par ces témoins humains, grâce à l'œuvre de l'Esprit de Dieu, de ce texte, de lui conférer sa qualité fondamentale. Il est de Dieu. Voilà comment je traite pour ma part cette question. Je ne sais pas si c'est avec tout ce que j'ai associé que vous l'aviez posé, tous les soucis que vous aviez, tous les soucis que j'ai essayé de rencontrer dans ma réponse, mais voilà ce que je voulais dire. Oui.
Dans le texte de Corinthiens, il s'agissait de façon générale des mystères de Dieu, mais appliqué à la Trinité, est-ce que vous pourriez un petit peu plus précis, dans tous les cas, je nage à
bon. J'espère que notre première étude demain, qui nous permettra de voir quelles sont les données bibliques qui nous permettent d'affirmer la Trinité, va répondre pour l'essentiel à cette question. Il s'agit, mais seulement entre autres, comme nous le verrons, des formulations proprement trinitaires. Et dans certains cas, des formulations qui ne sont pas trinitaires, mais qui impliquent la vérité que le dogme trinitaire essaie de mettre en valeur, unité et pluralité à la fois, sans que l'une n'affaiblisse en aucune façon l'autre. Bon, je le dis dès ce soir, alors, puisque vous recevez la question, donc ce sera dit pour demain, le début du quatrième évangile. Moi, je le trouve extraordinaire comme témoignage d'une activité de réflexion théologique. L'évangéliste n'écrit pas en transe comme ça, il a réfléchi et il énonce ce paradoxe. Au commencement était le Verbe, le Logos. Le Logos était avec Dieu, peut-être avec la nuance tournée vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Celui-là était avec Dieu au commencement. C'est une association qui est un paradoxe, qu'il affirme les deux à la fois, montre qu'il a vraiment dû y réfléchir, et qu'il maintient ces deux choses qui paraissent ne pas aller ensemble d'abord. Il y a la trace d'un travail théologique qui m'émeut dès le début du quatrième évangile. Alors c'est une telle expression, voyez, qui me semble correspondre à, au mode de communication voulu par l'Esprit de Dieu du mystère de la divinité. Et ça se retrouve, il faut peut-être que je laisse, oui, j'essaierai de le dire demain, espérons qu'il y aura le temps, mais vous avez un procédé d'inclusion qui est très fréquent dans l'Écriture. Le procédé de l'inclusion, c'est d'achever, inclure correspond à conclure, qui correspond à achever un morceau dont vous voulez faire un tout, en utilisant le même thème et souvent les mêmes mots qu'au début. Vous bouclez la boucle. On appelle ça une inclusion. Or, le prologue de l'évangile de Jean a ce procédé de l'inclusion pour marquer son achèvement. Le dernier verset, le verset 18, va correspondre à ce paradoxe. Dieu est avec Dieu, distinct et un. Je le ferai ressortir demain, j'espère. Oui, question très, très pertinente aussi. Je dirais dans le cas où une double référence est en effet à discerner, un seul sens. Un seul sens, mais avec double référence. Alors, je ne le dirai pas des prophéties du serviteur. Donc là, je plaiderais qu'il y a un seul sens qui est directement, immédiatement christique. Mais bien sûr, ça se discute sur pièce, sur ces textes eux-mêmes. Je ne pense pas qu'il y ait là un personnage de l'époque d'Ésaïe qui soit, ou du Deutéro-Ésaïe, pour ceux qui croient au Deutéro-Ésaïe, qui soit en cause. Je pense que c'est directement un texte christologique, mais je reconnais qu'il y a d'autres passages où la double référence est à admettre. Je le pense pour le psaume 2, par exemple, pour plusieurs des psaumes royaux, et je ne pense pas que ce soit le cas du psaume 110, mais je pense que c'est le cas pour un certain nombre de psaumes. Là, il y a visé en premier lieu du roi de l'époque, fils de David, et lui-même est le type du fils de David à venir, qui est Jésus-Christ. Donc là, il y a une double référence. Mais il me semble que ce n'est pas une pluralité de sens. Ce qui est dit à propos de ce fils de David, a un caractère un, mais s'applique selon ces deux références qui sont elles-mêmes liées par la typologie. C'est de cette façon que je traiterai. Alors, j'ajouterai, là ce n'est pas dans votre question même, qu'il y a certains cas de double sens délibéré. Ça fait partie de la communication humaine dont Dieu épouse en quelque sorte la diversité. Et il nous arrive, c'est rare, ça doit être l'exception toujours, autrement la communication interhumaine sombrerait très vite dans le chaos, mais il peut nous arriver d'émettre des doubles sens délibérés. Et je pense que cela arrive quelquefois dans l'Écriture, et qu'en particulier dans l'Évangile de Jean, nous avons des doubles sens délibérés, que le mot anosen dans Jean 3, par exemple, est par volonté même de Jean, à la fois de nouveau et d'en haut, que les deux traductions sont légitimes et que l'auteur a voulu ce double sens. généralement, on le reconnaît aussi très fort pour le Fils de l'homme sera élevé, élevé de la terre, qui désigne à la fois sa crucifixion et sa glorification, avec un lien là, en plus, je pense, très subtil, je vois un théologien très subtil, en un sens, c'est le comble de l'humiliation pour lui qui est glorification. Donc il est glorifié par la résurrection, par l'ascension, l'ascension à la droite de Dieu qui le démontre, mais il est déjà glorifié à la croix. Parce que la gloire suprême de Dieu, c'est de nous montrer l'amour dont il n'y a pas de plus grand.
Vous m'excusez, je ne vole pas aussi haut. J'ai une question vraiment terrible. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que nos frères catholiques m'ont beaucoup aidé pour la Trinité. Parce qu'ils l'ont intégré, ils l'ont digéré. Et pour moi, la Trinité, ça c'est très catholique. Vous m'excusez, mais c'était comme ça il y a des années dernières. Et je suis entrée dans cette Trinité qui est absolument merveilleuse. Et j'ai une petite question personnelle. Comment vous priez, vous adressez à cette chère Trinité? Vous l'appelez étroit aussi que vous priez. Vous avez cette audace de la croix de dire chère Trinité.
Ce n'est pas habituel. Je réponds d'abord à la deuxième partie de votre question. Je ne vois pas ce mode d'adresse dans la prière, dans le Nouveau Testament, donc je ne suis pas porté à la pratiquer, cependant je n'exclus pas. Et je pense au moins sous la forme de cantique qu'on peut chanter, de cantique très traditionnel, je suis tout prêt à m'y engager. Je pense que les vérités qui associées constituent le dogme trinitaire nous le permettent en effet. De nous adresser à la Trinité comme à l'objet de la prière. Je pense cependant que la prière ordinaire, disons la forme principale et qui doit rester principale si nous voulons rester dans les équilibres bibliques, c'est une prière adressée au Père par le Fils dans l'Esprit. Que nous nous disposons dans l'espace structuré par l'œuvre trinitaire de Dieu lorsque nous prions de cette façon. Donc c'est de cette façon que habituellement, je prie. Et j'essaye en effet de me rappeler que c'est par le Fils et dans l'Esprit que j'adresse cette prière. Ça ne doit pas forcément être dit chaque fois, mais je pense qu'il est bon d'en être conscient, de te le rappeler autant qu'il est possible. Ce qui n'exclut pas, à certains moments, la prière à la deuxième personne ou à la troisième. Alors la deuxième personne, qui apparaît suffisamment bien attestée dans le Nouveau Testament, il y a la prière d'Étienne, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il y a la prière de Paul. Quand Paul dit le Seigneur, c'est généralement la deuxième personne de la Trinité, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas absolument obligatoire, mais c'est généralement le cas. Alors, quand il dit qu'il a prié le Seigneur pour qu'il retire cette écharpe, et que le Seigneur lui a répondu « Ma grâce te suffit », la plupart des commentateurs, et je pense qu'ils ont raison, disent « C'est le Fils, le Seigneur Jésus, qu'il priait là ». Donc, c'est tout à fait admissible, même si la prière ordinairement est adressée au Père par le Fils. Pour l'Esprit, il n'y a pas d'exemple très clair dans le Nouveau Testament, mais c'est traditionnel, ça pèse un certain poids. Il y a la logique, si c'est admis pour le Fils, et si la Trinité est vérité biblique, alors de quel droit l'exclurions-nous pour l'Esprit? Et il y a quand même un texte qu'on peut considérer comme équivalent à une prière à l'Esprit, c'est ce qu'on trouve en Ézéchiel 37. ou selon l'ordre de Dieu, Ézéchiel prophétise à l'esprit et invoque l'esprit souffle des quatre vents et que ses morts revivent. C'est une prière. Une prière que par inspiration prophétique, il adresse. Donc il me semble que condamner la prière à l'esprit, comme Origène l'a condamné par exemple, ce n'est pas biblique. Et donc j'affirme que c'est légitime, même si je m'inquiéterais d'un renversement des équilibres bibliques à cet égard. Et si ça devenait la prière habituelle, il me semble que ce serait un indice un peu préoccupant.